Bonjour Sylvie Zedman.
Bonjour.
Il y a 75 ans, commençait la bataille de Paris après 4 ans d'occupation allemande. Que se passe-t-il précisément le 19 août 1944?
Il faut savoir que l'effervescence a gagné la ville de Paris parce que on sait déjà que les Alliés ont débarqué, bien évidemment, au mois de juin, le 6 juin 1944. Et à Paris, le ravitaillement commence à faire défaut. Il y a souvent des coupures de gaz, d'électricité. Et je vous disais, l'effervescence gagne. Et le 14 juillet a eu lieu pour la première fois des manifestations patriotiques pour lesquelles la police, qui est la police de Vichy, n'est pas intervenue. Les grèves de cheminots, d'infirmiers, de postiers se multiplient. Et finalement, la question est de savoir si c'est le moment de déclencher l'insurrection à Paris ou non.
Il y a une impatience. Alors, donc, depuis le débarquement en Normandie, une impatience des résistants, de ceux qui habitent Paris, des Parisiens eux-mêmes en général.
Oui, des Parisiens eux-mêmes en général. Et puis, il y a la résistance. Il y a d'un côté les représentants du général de Gaulle, du gouvernement provisoire de la République. Et puis, il y a aussi le Conseil national de la résistance, le Comité parisien de la libération, enfin une multiplicité d'acteurs, oui, avec des forces armées aussi, qui sont en région parisienne, les forces françaises de l'intérieur, commandées par le colonel Rolle.
Et ce qui peut paraître étonnant, c'est que la libération de Paris, qui est forcément extrêmement symbolique, n'était pas une priorité pour les Alliés qui ont débarqué en Normandie en juin.
Non, pas du tout. Pour les Alliés, il s'agissait d'obtenir le plus rapidement possible et avec le moins de pertes possible la capitulation de l'Allemagne. Donc, pour eux, contourner Paris était plutôt une bonne opération.
Oui.
Donc, il va falloir toute la persuasion du général de Gaulle, qui a bien compris l'enjeu symbolique de la reprise, de la libération de cette capitale française, pour finalement que Eisenhower finalement accepte d'envoyer la 2e DB, la 2e division blindée, et la 4e division d'infanterie américaine libérer Paris.
Alors, le 18 août, c'est le début de l'insurrection. Sans attendre donc l'arrivée des Alliés, Paris se soulève. À quoi va ressembler cette bataille de Paris qui va durer une petite semaine?
Alors, on va dire que ce sont principalement des batailles de rue. Vous savez, les forces françaises de l'intérieur sont très peu armées, évidemment très peu armées. Et face à elles, elles ont des forces allemandes qui, même si elles sont assez peu nombreuses, il y a 20 000, on estime qu'il y a environ 20 000 Allemands à ce moment-là.
Oui, 20 000 soldats allemands dans la capitale, oui.
Qui sont retranchés dans des points forts, dans des points d'appui. Et donc, le 19 août, le premier geste symbolique de la résistance parisienne, finalement, c'est d'occuper la préfecture de police de Paris. Donc, on a 2000 à 3000 policiers résistants qui vont occuper cette préfecture de police où on va dresser enfin le drapeau tricolore.
Dans les jours qui viennent, le général von Choltitz, qui commande la garnison allemande, va recevoir d'Hitler l'ordre de détruire Paris, d'en faire un champ de ruines. Et il désobéit. Est-ce qu'on sait pourquoi précisément il ne va pas le faire?
Alors, on ne va pas dire qu'il désobéit. Il reçoit effectivement ces ordres-là qui sont rappelés à plusieurs reprises par Hitler lui-même. Et il faut voir qu'il a peu de moyens. Parce qu'en fait, on lui a adjoint quelques divisions supplémentaires, mais en même temps, on lui a retiré des troupes, parce que les Allemands sont en train de constituer des anneaux défensifs sur lesquels ils vont concentrer leurs troupes. Et donc, lui, évidemment, dans la capitale parisienne, il a finalement moins de possibilités de défense. Et en même temps, il faut que, bien qu'il ait eu l'ordre de faire sauter les ponts, il conserve quelques ponts de façon à ce que l'armée allemande qui est en train de se replier pour reformer, oui, ses anneaux défensifs puisse traverser Paris. Donc, on ne peut pas dire qu'il a formellement désobéi, il avait moins de moyens pour justement réaliser ce qu'on lui avait demandé de faire.
D'accord. Et le 25 août au matin, donc, ce sont les chars de la 2e DB du général Leclerc qui entrent dans Paris, le drapeau français qui flotte à nouveau sur la tour Eiffel à midi, le lendemain, ces images du général de Gaulle qui descend les Champs-Élysées, avec le musée que vous dirigez, qui ouvre dimanche dans un nouveau lieu. On va pouvoir plonger au cœur de cette histoire, puisque ce musée qui existe depuis 25 ans, il déménage pour s'installer place d'Enfer Rochereau. Et c'est un des hauts lieux de la libération de la capitale, Sylvie Zedman.
Oui, alors c'est une chance incroyable pour ce musée, parce que ce musée qui a été créé pour le 50e anniversaire de la libération de Paris était en fait deux musées, composés de deux musées, l'un consacré à Jean Moulin et l'autre qui était un mémorial du maréchal Leclerc de Haute-Cloque et de la libération de Paris. Et finalement, il va se recomposer en un musée, place d'Enfer Rochereau, et tout l'intérêt de se retrouver place d'Enfer Rochereau, c'est que, outre le fait que le musée, l'ancien musée, était mal situé au-dessus de la gare Montparnasse et très, très mal, très, très peu accessible.
Très peu visible, oui.
Très peu visible, très peu accessible. Le nouveau musée est installé au-dessus de l'abri de défense passive qui a servi de poste de commandement au colonel Roll, qui commandait les FFI de la région parisienne.
Oui, les forces françaises de l'intérieur. Et on va pouvoir visiter ce poste de commandement.
Il sera accessible à la visite et nous prévoyons même une visite en réalité mixte, c'est-à-dire de la réalité augmentée qui permet de le visiter autrement.
Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir alors dans ce PC du colonel Henri Roll-Tanguy ?
Alors, nous l'avons remis en état, c'est-à-dire que nous l'avons juste repeint et nous avons conservé tout ce qui était les quelques infrastructures qui restaient de l'époque. Et on a vraiment le sentiment d'être plongé dans ces journées de la libération avec juste un accompagnement sonore. C'est très impressionnant.
Et on va pouvoir aussi écouter, voir des témoignages d'acteurs de la libération de Paris, certains disparus depuis. Votre musée va permettre d'entretenir cette mémoire en quelque sorte.
Et le musée va surtout permettre de remettre à jour les connaissances en s'appuyant sur la vie et l'engagement de deux hommes particuliers, Jean Moulin d'une part, et Philippe de Haute-Cloque, le général Leclerc, d'autre part, et à partir de leur engagement, d'évoquer justement Paris, Paris occupé, et puis Paris libéré. Et donc, de proposer aux familles, aux jeunes, une nouvelle approche avec des paroles de témoins qui sont aujourd'hui disparues, et des films d'archives. Et donc de rentrer par des objets qui racontent des histoires dans ce moment absolument capital de notre histoire.
À quoi sert aujourd'hui un musée de la libération de Paris, Sylvie Zedman ?
Servir, utilité, c'est compliqué.
Oui, moi, c'est toujours compliqué dès qu'on parle d'histoire et de culture. Oui.
Voilà, je dirais que c'est un lieu de connaissance et puis c'est un lieu de réflexion. On a toujours besoin de se pencher sur ce qui a été l'engagement de certaines personnes dans des situations critiques afin de s'éduquer soi-même, de comprendre les choses et de pouvoir se projeter dans le futur.
Merci à vous Sylvie Zedman d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que ce musée de la Libération, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin, il a trois noms en un. Il ouvre dès ce dimanche, 18h30 si vous passez par Paris. Et pour les mois qui viennent et jusqu'à ce qu'il continue d'ouvrir, l'entrée restera gratuite. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin pour évoquer le 75e anniversaire de la Libération de Paris.